télécharger notre application dw.com/appli.
Ça fait un plaisir d'être avec vous, Eric. Merci pour cette possibilité. Bien sûr, mardi, il y avait cette étape dans la démocratie américaine. Comme je m'en occupe des affaires politiques étrangères, ce que je peux vous dire, c'est que notre politique étrangère en Afrique, nos programmes de coopération, notre stratégie, depuis longtemps, ces efforts, ils ont un soutien des deux partis politiques aux États-Unis. Et ça va continuer. C'est une stratégie pragmatique et donc je pense avec le nouveau secrétaire adjoint pour les affaires africaines, ambassadeur Tibor Nagy, qui vient de faire son déplacement en Afrique, le premier. Nous allons continuer notre travail avec nos partenaires.
Est-ce que vous n'avez pas peur quand même que les démocrates ne puissent entraver la mise en application de certains projets, puisqu'ils disposent quand même des moyens de bloquer certains projets, notamment dans l'aspect financier?
La politique étrangère en Afrique a un soutien et bien géré, et donc ça va continuer. Et donc je mets l'accent pas uniquement sur les questions de sécurité et la lutte contre l'extrémisme violent, mais il faut se rendre compte que les éléments de gouvernance et de développement sont des priorités extrêmement importantes. Et c'est là où les États-Unis vont travailler avec nos partenaires africains.
Oui, vous l'évoquiez, hein, le secrétaire d'État adjoint chargé des affaires africaines est en tournée en Afrique. C'est quoi le but de cette visite?
Donc, c'est sa première visite comme secrétaire adjoint. Il a passé la plus grande partie de sa carrière diplomatique en Afrique, une dizaine de pays, deux fois ambassadeur. Il vient de commencer dans son poste actuel. Et donc, il est en train de faire beaucoup de choses, de prendre des contacts avec les gouvernements, bien sûr, ses homologues, mais aussi avec ses collègues, les ambassadeurs, les diplomates.
Et justement, il a organisé la semaine dernière une grande réunion des ambassadeurs américains dans
la région. Exact, dans la région. Donc, il prend ses contacts avec ses diplomates de carrière. Il prend contact avec les jeunes, avec la société civile. Lui, il comprend les défis en Afrique, les questions, par exemple, démographiques. Ça pourrait être quelque chose de très positif d'ici 2050, qu'il y aura à peu près une population de 2 milliards.
Justement, il était aussi ambassadeur au Togo entre 87 et 90. Oui. Or, la situation politique en ce moment au Togo n'est pas bonne. Oui. Quel est son point de vue?
Non, c'est une question de développement et de possibilité de prospérité. Je viens de dire que c'est un continent extrêmement jeune, ce qui est une bonne chose parce qu'il y a un main-d'œuvre énorme. Mais il faut du bonne gouvernance et vous avez mentionné le Togo. Il y a maintenant, il est passé par le Mali où il y a une force de maintien de la paix des Nations Unies.
Il est attendu également en Guinée où les
contestations
se font de plus
en
plus
fortes. Et s'il n'y a pas de bonne gouvernance, il n'y a pas de stabilité, il n'y aura pas d'investissement et puis il n'y a pas de développement. Donc, toutes ces choses sont liées. L'approche, la stratégie des États-Unis est de faire avancer petit à petit tous ces éléments. Pour l'ambassadeur Nagy, quelque chose qui est vraiment essentiel, ce sont les échanges entre les pays africains et les États-Unis, étudiants.
Oui, beaucoup vous critiquent. Hein. On n'entend quasiment pas les États-Unis critiquer, par exemple, la mauvaise gouvernance au Togo, en Guinée ou au Tchad ou récemment au Cameroun. Pourquoi est-ce que vous êtes silencieux?
Nous sommes très ouverts. En fait, nous faisons régulièrement des déclarations. Nous avons critiqué certaines décisions, par exemple, par le gouvernement à Kinshasa. Souvent, nous expliquons ce que nous attendons de nos partenaires, de ces gouvernements africains, y compris la bonne gouvernance, y compris qu'ils respectent leurs obligations démocratiques, leurs obligations constitutionnelles. Ce n'est pas à dire, si j'adresse votre question, ce n'est pas à dire que nous pouvons forcer des décisions, des actions de chaque gouvernement.
Mais l'opposition camerounaise était, par exemple, fâchée lorsque vous avez félicité, ou bien reconnu, l'élection présidentielle du 7 octobre prochain au Cameroun.
Je pense qu'il y avait une erreur en disant que On n'a pas facilité un politicien, mais c'est le peuple camerounais. S'ils ont voté, donc c'est à eux qu'on va parler après ce processus. Mais encore, c'est pas nous, mais ce sont les institutions camerounaises qui doivent dire que l'élection était correcte.
Tout le monde sait que ces institutions répondent uniquement à Paul Biya. Elles ne sont pas démocratiques.
Oui, donc je pense que tout ce que notre ambassadeur Peter Barlerin a dit, il est notre ambassadeur à Yaoundé, donc je suggère qu'on suit son discours. Mais je pense que c'est très important de savoir que il faut que la population d'un pays, c'est eux qui ont l'obligation de gérer leur avenir, les possibilités. S'ils attendent trop de l'extérieur, rien va changer. Et donc si le première question, le premier action de n'importe quelle personne qui n'est pas content de la situation de leur pays, c'est de demander à quelqu'un de l'extérieur de venir résoluer la situation, c'est pas pratique, c'est pas pragmatique.
Oui, vous plaidez la non-ingérence, mais les États-Unis appuient financièrement beaucoup de projets au Cameroun. Or, dans les deux provinces anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les violences se multiplient. C'est quand même choquant, non, que la première puissance mondiale ne se prononce pas là-dessus.
Pas du tout. Nous avons un partenariat en Cameroun qui est pratique. Il y a dans cette région l'insécurité. À côté, la République centrafricaine. De l'autre côté, il y a le Tchad. Il y a pas mal de défis, extrémisme violent dans la région. Il y a toujours la crise au nord-est de Nigeria, de Boko Haram. C'est notre coopération sécuritaire est efficace et ça continue, mais il faut également noter notre coopération dans les domaines de la santé, de la gouvernance, éducation. Les intérêts qui font avancer les États-Unis, nos intérêts dans la région, c'est bien sûr protéger les investissements et les intérêts des États-Unis, mais ça se fait dans des pays stables où il y a de bonne gouvernance, il y a des possibilités pour l'investissement.
Ouais, donc vous mettez plus l'accent sur la coopération militaire et sécuritaire et vous ne vous ingérez pas dans le débat politique national.
C'est un parti, notre coopération sécuritaire, c'est bien sûr un parti essentiel, mais c'est peut-être un tiers de la solution. Les solutions doivent être bien sûr locales. Ça devrait venir de chaque communauté comme telle, mais c'est lié aux autres questions, questions d'aide humanitaire, de coopération, de développement, mais éventuellement, à terme, il faut vraiment de meilleure gouvernance et puis il y aura un investissement qui fait avancer des choses.
Oui, est-ce que vous avez, quand je dis vous, hein, le département d'État, est-ce que vous avez l'habitude de dire aux autorités togolaises, par exemple, de réussir à s'entendre avec ses opposants?
Je pense que si nous allons parler de notre stratégie diplomatique en Afrique, comme l'ambassadeur Nage a dit, si quelqu'un nous demande quel candidat est-ce que vous soutenez, le candidat que nous soutient, c'est le processus. Le processus devrait être correct. Nous ne prononçons pas sur un côté ou l'autre. C'est pour la population du pays d'être responsable. Et oui, nous sommes là comme partenaires dans tous ces pays pour faire, bien sûr, avancer nos intérêts dans le pays. Et ce que nous trouvons, c'est que pour la plupart, ces intérêts sont en commun avec la population locale et nos partenaires dans le gouvernement.
Et donc, vous ne dites rien lorsque ces populations sont massacrées par les forces de l'ordre?
Si, vous savez bien que chaque fois qu'il y a une action, un événement comme ça, Il y aura une déclaration du porte-parole du département d'État. C'est quelque chose que nos collègues européennes le font également. Et la position des États-Unis dans la protection des droits de l'homme, la protection des journalistes, la condamnation de ces actions violentes est absolument claire. Mais changer le comportement de chaque gouvernement, ça va être quelque chose qui va se passer dans chaque pays. Et c'est pour moi ce que je trouve la raison. Je suis très optimiste. Je rencontre des young leaders, le programme de Yali. Donc, il y a des milliers de jeunes Africains qui sont allés aux États-Unis, ils sont rentrés chez eux. Il y a un réseau professionnel pour eux. C'est eux qui seront des entrepreneurs, c'est eux qui vont gérer des ONG, de la société civile, qui vont être la nouvelle génération dans les gouvernements africains. Et c'est à eux de faire changer des choses et c'est nous qui pouvons faciliter ces améliorations dans le contexte politique et économique.
Oui, dernière question. L'année dernière, il y a juste un an, Rex Tillerson a été démis de ses fonctions juste après une tournée africaine qu'il a conduite notamment au Tchad et en Éthiopie. Est-ce que vous pouvez nous dire les raisons de son limogeage?
C'était absolument séparé. Ça n'a eu rien à voir avec où il était, rien à voir avec sa visite. C'était juste le timing qui était un peu bizarre, disons. Il était sur place, je crois qu'il était au Nigeria, mais ça n'avait rien à voir avec la visite au Nigeria, au Tchad ou autre. Ce n'était que la décision du président qui a c'est lui le droit, bien sûr, de changer son secrétaire d'État. Donc, il a pris cette décision, mais ça n'a rien à voir avec notre politique en Afrique. Même que pendant l'administration, il y a deux secrétaires d'État. Il faut noter les déclarations, les visites de Nikki Haley, notre ambassadeur aux Nations Unies, qui est allé rencontrer l'Union africaine. Elle était en Soudan du Sud, elle était à Addis Ababa, Congo-Kinshasa, et Mark Green, qui est chef de notre USAID, également, il est passé en Afrique prendre des contacts. Il y a d'autres autres officiels américains, donc ça continue, il y a vraiment une continuation de notre approche, nos partenariats en Afrique.
Donc vous ne craignez pas que Tibor Peter Nagy ne puisse également subir le même sort que Tillerson?
Non, lui, il vient de commencer le travail, il est expert en affaires africaines, il prend des contacts avec tout le monde. Il est très, très bien expérimenté et très, très bien respecté, soit en Afrique, soit à Washington. Il est le premier à dire qu'il y a des très grands défis, mais également des très grandes possibilités. Donc, la politique étrangère en Afrique pour les États-Unis, nous sommes très optimistes. C'est à cause des jeunes Africains dont nous rencontrons. Des possibilités dans ces pays. Et donc, pour nous, pour les États-Unis comme partenaire, c'est à nous d'accompagner ces jeunes Africains pour leur faire, leur aider à accomplir leur rêve pour l'avenir.
Vous êtes content que les élections se tiendront le 23 décembre en RDC?
Absolument. C'est un parti de l'accord qui ont été faits il y a 2-3 ans.
C'est en 2016.
2016, voilà. Donc, il y a 2 ans, c'est déjà reporté un certain temps. C'est un pays... moi, j'ai travaillé au Congo pendant les années 90, en fait. Mais c'est un pays, depuis l'indépendance, qui n'ont jamais vraiment voté. Ils n'ont jamais eu cette possibilité. Il y avait certaines élections ici et là, bon, qui n'étaient pas parfaites. Mais c'est un pays... Qui a besoin d'une bonne gouvernance, de développement économique Et ça commence avec des élections libres et transparentes.
Pensez-vous que ces élections de décembre seront libres et transparentes?
Nous ne pouvons pas faire des commentaires en avance, mais ce que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons encourager, nous pouvons demander au gouvernement, aux autorités, également aux partis de l'opposition, de respecter la Constitution, de respecter les principes d'une élection qui est libre et transparente. Et ça, c'est nous que nous attendons au Congo. Et c'est la population, c'est le peuple congolais qui le mérite, qui le veut et qui doit avoir ce privilège, ce droit de voter, de choisir le gouvernement.
Oui, l'opposition, la société civile, l'Église, tous n'ont pas confiance en la machine à voter. Quel est votre point de vue?
C'est la société civile, c'est tous les parties prenantes qui participent dans les institutions avec, disons, l'autorité électorale pour que les électeurs puissent avoir confiance dans tout élément de ce système, y compris les membres, les représentants qui sera au chaque bureau de vote comme pour observer le vote et les chiffres et tout cela. Ils sont bien expérimentés depuis les dernières élections. Et donc, certains partenaires sont là, y compris les Nations Unies pour les aider. Mais c'est une discussion qui devrait être transparente. Tous les concerns doivent être discutés et il faut adresser ces concerns pour que l'opinion du peuple congolais soit respectée. Mais c'est pas facile, c'est un pays énorme, quoi.
Et les États-Unis vont appuyer le processus électoral en RDC?
Bien sûr, nous avons un ambassadeur qui est là, qui est en contact avec tous les parties prenantes. Dans plusieurs pays où il y a une élection ou d'autres questions de gouvernance, il y a souvent une manière de coopération qui est menée par les États-Unis. Et donc, il y a certains éléments. Bien sûr, nous travaillons avec la société civile, par exemple. C'est quelque chose qui va se dérouler au Congo. Mais enfin, nous sommes contents si ça se passait le mois prochain parce que c'est absolument nécessaire pour l'avenir du pays.
D'accord. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté de
répondre. Merci à vous, Eric. Plaisir.
Allez, au plaisir.
OK.
Merci.